From the conference center at...
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 120e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de l'Institut de religion d'Orem. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session générale de la 130e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence à la télévision, à la radio ou sur l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux, dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de l'Institut d'Orem, sous la direction de Ryan Eggett et d'Alan Matthews, avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Viens écouter la voix de Dieu ». Ensuite, Lynn G. Robbins, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our beloved Father in heaven.
Notre Père céleste bien-aimé. Nous sommes infiniment reconnaissants de cette conférence générale qui nous aide tant et pour les bénédictions d'être édifiés par la musique et les discours inspirants et encourageants. Nous sommes reconnaissants de toutes les bénédictions et reconnaissons que tu es le dispensateur de tout ce qui est bon dans notre vie. Nous sommes reconnaissants de l'Esprit et te demandons de le déverser en abondance sur les orateurs, afin qu'ils le fassent, qu'ils parlent par le pouvoir de ton esprit, afin que leur message soit porté au cœur de chacun personnellement, pour que cela nous fortifie et nous pousse à changer notre vie dans les domaines où nous devons le faire. En ce week-end de Pâques, nous sommes reconnaissants du sacrifice expiatoire de ton Fils, et nous te prions que par cette réunion, notre foi en lui s'accroisse et que nos désirs de le suivre avec diligence se renforcent. Nous te prions en particulier d'avoir la sagesse et la résolution d'appliquer ce que nous allons apprendre pour fortifier notre foyer et notre famille et faire de notre foyer un sanctuaire, un refuge à l'abri des soucis et des tentations du monde. Nous te demandons de nous accorder ces bénédictions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Le chœur vient de chanter « Je ressens son amour ». Et nous pouvons certainement le ressentir en ce jour. Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions et les présidents généraux des auxiliaires de l'Église pour un vote de soutien. Après le vote de soutien, Robert W. Cantwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport du département d'appurement de l'Église. Il sera suivi de Brooke P. Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2009. Maintenant, le soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Talin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bernard, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er mai 2010, les 70 d'interrégions suivants.
Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleivig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita.
Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever Cheryl L. C. Land, Margaret S. Liefert et Vicky F. Matsumori de la présidence générale de la primaire. Nous relevons aussi tous les membres du bureau général de la primaire. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces sœurs pour leur service dévoué le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme nouveaux membres du premier collège des 70 Kevin R. Duncan, Gerrit W. Gong, Patrick Kiron et Juan à Uceda. Et comme membre du deuxième collège des 70, Larry R. Lawrence, Per C. Malm et Jairo Mazagardi. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion
Jan S. Arden, Philippe K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierrot, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor, please.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir Rosemary Mix Vixom comme nouvelle présidente générale de la primaire, avec Jean Aldridge Stevens comme première conseillère et Cheryl Faye Eslim comme deuxième conseillère. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et présidence générale d'auxiliaire actuelle. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime en faveur des propositions faites. Merci, mes frères et sœurs, de vos votes de soutien, de votre foi et de votre dévouement et de vos prières. Nous invitons maintenant les autorités générales et la présidente générale de la primaire qui viennent d'être appelées à venir prendre place sur l'estrade. C'est une longue marche. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce Conseil est composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'Épiscopat président. Il approuve les budgets des départements et établissements de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds conformément au budget approuvé et dans le respect des règles et modalités de l'Église. Il a été donné au département d'appurement de l'Église accès à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements et établissements de l'Église, et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôleurs de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous les domaines matériels, les dons reçus, les dépenses faites, et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2009 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église, Robert W. Cantwell, directeur général. La première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la situation de l'Église au 31 décembre 2009. Pieux, 2865. Mission, 344. District, 616. Paroisses et branches, 28424. Population totale de l'Église, 13 824 854. Nouveaux enfants inscrits en 2009, 119 722. Convertis baptisés en 2009, 280 106. Missionnaires à plein temps, 51 736. Temple consacré en 2009, 2. Draper et Okio Mountain en Utah. Temple en service, 130. Les officiers généraux et membres éminents de l'Église décédés depuis avril dernier. Royden J. Derrick, autorité générale émérite, George E. Cannon, W. Don Ladd, Douglas G. Martin et Joseph B. Muren, anciens membres des 70. Colin W. Assay, veuve de Carlos E. Assay, autorité générale émérite. Jean C. Dunn, veuve de Paul H. Dunn, autorité générale émérite. Gilbert C. Simpson, veuve de Robert L. Simpson, autorité générale émérite. Jacqueline Lawrence, femme de W. Mac Lawrence, ancien membre des 70. Betty N. Turley, femme de Richard E. Turley, senior, ancien membre des 70. David S. King, ancien adjoint dans la superintendance générale de la Société d'amélioration mutuelle des jeunes gens. Anne S. Rees, ancienne conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Robert G. Matthews, grand spécialiste de la traduction de la Bible par Joseph Smith, et Truman Madsen, érudit de l'Église et ancien directeur du centre de l'Université Brigham Young à Jérusalem.
Thank you, brethren.
Merci, mes frères. Nous entendrons à présent L. Tom Perry et D. Todd Christopherson du Collège des Douze Apôtres.
Récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre avec frère Alstrom dans cinq villes de la grande interrégion du centre des États-Unis. Dans chaque ville que nous avons visitée, nous avions une réunion avec les missionnaires à plein temps, suivie d'une réunion avec les dirigeants de pieux et de paroisses au sujet de l'œuvre missionnaire. Chaque fois, entre ces deux réunions, la Société de secours de pieux préparait un repas léger pour que nous ayons le temps de rencontrer le président de pieux. Lorsque nous sommes arrivés à Milwaukee, au Wisconsin, deux jeunes familles ont supplié la Société de secours de les laisser préparer et servir le repas. Les deux maris se sont occupés de la cuisine. Les deux mères ont supervisé la décoration de table et le service. Les trois jeunes enfants ont mis la table et ont servi les plats sous la supervision de leur mère. Cela permettait aux mères d'avoir l'occasion d'instruire leurs enfants. C'était très enrichissant d'observer les enfants suivre tout ce que leur mère leur enseignait. Ils se sont parfaitement acquittés de leurs tâches, dans les moindres détails. Cette expérience m'a fait réfléchir à la formation que j'ai reçue de ma propre mère. Comme le prophète Néphi, et comme beaucoup d'entre vous, je suis né de bons parents. L'une de mes nièces m'a récemment montré 4 cahiers que ma mère avait remplis de notes, tandis qu'elle se préparait à enseigner ses leçons de société de secours. J'imagine que ces cahiers, et il y en a d'autres que je n'ai pas encore examinés, représentent des centaines d'heures de préparation. Maman était une instructrice formidable. Elle était diligente et minutieuse dans sa préparation. Je garde des souvenirs précis des jours qui précédaient ces leçons. La table de la salle à manger était recouverte de textes de référence et des notes qu'elle prenait pour sa leçon. Il y avait là tant de matière que je suis sûr que seule une petite partie en était utilisée en classe. Mais je suis également certain que rien de ce qu'elle préparait n'était perdu. Comment puis-je en être certain? Lorsque j'ai feuilleté ces cahiers, il m'a semblé entendre de nouveau ma mère m'instruire. Oui, il y en avait bien trop dans ces cahiers sur n'importe quel sujet pour tenir dans une seule leçon. Mais ce qu'elle n'utilisait pas dans sa classe, elle l'utilisait pour instruire ses enfants. Je crois que l'on peut dire à coup sûr que bien que ma mère ait été une instructrice extrêmement efficace parmi les sœurs de la société de secours, son meilleur enseignement avait lieu auprès de ses enfants au foyer. C'était bien sûr dû essentiellement au fait qu'elle n'avait plus le temps pour instruire ses enfants. Elle en avait plus que pour enseigner à la société de secours. Mais j'aime également à penser qu'elle se préparait avec tant de soin, premièrement pour donner à ses enfants un exemple de service diligent dans l'Église, et deuxièmement, parce qu'elle se rendait compte que ce qu'elle apprenait pendant la préparation de ses leçons, elle pouvait l'utiliser à diverses reprises pour l'objectif plus élevé d'instruire ses fils et ses filles. Permettez-moi d'évoquer mes souvenirs pendant quelques instants et de vous parler des leçons que j'ai apprises de ma mère au sujet de l'enseignement de l'Évangile au foyer. Ma mère comprenait l'importance d'enseigner à ses enfants les principes, les valeurs et la doctrine pendant qu'ils étaient encore jeunes. Elle était reconnaissante envers les personnes qui instruisaient ses enfants en dehors du foyer, que ce soit à l'école ou à l'église. Mais elle était consciente que la responsabilité d'éduquer les enfants est confiée aux parents et qu'en définitive, ce sont eux qui doivent s'assurer que leurs enfants reçoivent les enseignements que leur Père Céleste veut. Notre mère nous interrogeait très soigneusement, mes frères et sœurs et moi, une fois que nous avions reçu un enseignement en dehors du foyer, pour être sûr que les bonnes leçons nous parvenaient aux oreilles et nous formaient l'esprit. Certains jours après l'école, quand je rentrais à la maison en courant, je pensais que j'en avais fini avec les leçons pour la journée. Mais cette illusion se dissipait rapidement lorsque je voyais ma mère qui m'attendait sur le pas de la porte. Lorsque nous étions jeunes, nous avions chacun un pupitre dans la cuisine où elle pouvait continuer de nous instruire, tandis qu'elle faisait des tâches ménagères et préparait le dîner. Elle avait un sens inné de l'enseignement et était beaucoup plus exigeante que nos professeurs à l'école et nos instructeurs à l'église. L'enseignement de ma mère portait aussi bien sur les choses profanes que sur les choses spirituelles. Elle veillait à ce qu'aucun d'entre nous ne soit en retard dans ses devoirs scolaires et elle nous en donnait souvent d'autres. Elle s'entraînait aussi avec nous à enseigner ses leçons de la société de secours. Bien entendu, nous recevions la version non abrégée que l'on trouve dans ses cahiers et non la version courte qui devait tenir dans une seule leçon. Une partie de l'enseignement que nous recevions à la maison consistait également à apprendre par cœur des Écritures, des articles de foi et les paroles des prophètes, voyants et révélateurs. Ma mère croyait qu'un esprit devient faible si l'on ne lui fait pas constamment faire de l'exercice. Elle nous instruisait lorsque nous faisions la vaisselle, lorsque nous battions le beurre et que nous l'aidions d'autres manières encore. Elle ne croyait pas qu'il était bon de laisser des pensées oisives entrer dans l'esprit de ses enfants, même lorsqu'ils faisaient un travail physique. Je ne dis pas que ma mère devrait servir de modèle aux parents d'aujourd'hui. Les temps ont beaucoup changé à présent. Mais même si c'est le cas, l'enseignement d'un père ou d'une mère ne doit jamais être dévalorisé. Beaucoup d'activités lient les valeurs d'une génération à celles de la suivante. Mais la plus importante est peut-être l'enseignement que les parents donnent à leurs enfants au foyer. C'est particulièrement vrai pour l'enseignement des valeurs, des principes moraux et éthiques et de la foi. L'enseignement à la maison est de plus en plus important dans notre monde actuel, où l'influence de l'adversaire est si répandue. Ce dernier est à l'attaque et tente de miner et de détruire le fondement même de notre société, la famille. Les parents doivent partir du principe que l'enseignement au foyer est une responsabilité des plus sacrées et des plus importantes. D'autres institutions, par exemple l'Église et l'école, peuvent aider les parents à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais en définitive, c'est aux parents que cette responsabilité incombe. Selon le grand plan du bonheur, ce sont les parents qui sont chargés du soin et du développement des enfants de notre Père Céleste. Notre famille fait partie intégrante de son œuvre et de sa gloire, qui sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Sur la scène éternelle de Dieu, il est habituellement prévu que ce soit les parents qui aient les premiers rôles dans la vie de leurs enfants. Heureusement, le réalisateur a prévu des doublures qui peuvent intervenir lorsque les parents ne le peuvent pas. Toutefois, ce sont les parents qui ont reçu le commandement du Seigneur d'élever leurs enfants dans la lumière et la vérité. C'est par une prière en famille, une période d'étude des Écritures, une soirée familiale, un livre lu à haute voix, un chant et un repas en famille à la fois que les parents doivent faire entrer la lumière et la vérité dans leur foyer. Ils savent qu'une éducation juste, consciencieuse, persévérante et quotidienne compte parmi les forces positives les plus importantes et les plus influentes du monde. La santé de toute société, le bonheur, la prospérité et la paix du peuple trouvent tous leurs racines dans l'enseignement des enfants au foyer. Joseph Fielding Smith a enseigné. C'est le devoir des parents d'enseigner à leurs enfants ces principes salvateurs de l'Évangile de Jésus-Christ, pour qu'ils sachent pourquoi ils doivent se faire baptiser et qu'ils aient dans le cœur le désir de continuer à respecter les commandements de Dieu après leur baptême, afin de retourner en sa présence. Mes chers frères et sœurs, voulez-vous avoir votre famille, vos enfants? Voulez-vous être scellés à vos pères et à vos mères qui vous ont précédés? Si c'est le cas, vous devez commencer par instruire vos enfants au berceau. Vous devez enseigner par l'exemple et par le précepte. L'exemple de ma mère qui enseignait au foyer conduit à une autre réflexion, plus générale, sur l'enseignement. Les dirigeants de l'Église passent beaucoup de temps à réfléchir à la façon d'améliorer l'enseignement. Pourquoi investissons-nous ce temps et ces efforts? C'est parce que nous croyons au pouvoir immense qu'a l'enseignement d'augmenter la foi des personnes et de fortifier les familles. Je crois que l'une des choses les plus efficaces que nous puissions faire pour améliorer l'enseignement dans l'Église est d'améliorer l'enseignement dans notre foyer. Notre enseignement au foyer nous prépare à enseigner plus efficacement à l'Église. Et notre enseignement à l'Église nous aide à enseigner plus efficacement au foyer. Partout dans l'Église, il y a des tables de salle à manger, recouvertes de documentation et de références et de cahiers remplis d'idées pour les leçons à faire. On n'est jamais trop préparé à enseigner l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'elles soient utilisées en classe ou non, les idées sur l'Évangile peuvent toujours être enseignées à la maison. Le document inspiré qu'est la Déclaration au monde sur la famille affirme. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer, de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans ses responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Selon la Déclaration au monde sur la famille, les principes que j'ai enseignés sur l'enseignement au foyer s'appliquent aux deux parents. Mais ils sont particulièrement importants pour le rôle de la mère. La plupart du temps, les pères passent la plus grande partie de leur journée à l'extérieur du foyer pour leur travail. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la responsabilité d'instruire les enfants au foyer incombe particulièrement aux mères. Les situations varient et l'idéal n'est pas toujours possible. Mais je crois que c'est par dessein divin que le rôle de la mère met l'accent sur l'éducation et l'enseignement de la génération montante. Nous voyons aujourd'hui tant de problèmes du fait d'influences perturbatrices et destructrices qui ont pour but d'égarer les enfants de Dieu. Nous voyons beaucoup de jeunes qui n'ont pas les racines spirituelles profondes nécessaires pour rester fermes dans la foi, lorsque les tempêtes de l'incrédulité et du désespoir font rage autour d'eux. Trop d'enfants de notre Père Céleste succombent aux désirs du monde. L'assaut de la méchanceté contre nos enfants est à la fois plus subtil et plus effronté que jamais. L'enseignement de l'Évangile de Jésus-Christ au foyer est pour nos enfants une couche de protection supplémentaire contre les enfants du monde, les influences du monde. Que Dieu vous bénisse, pères et mères merveilleuses en Sion. Il vous a confié ses enfants éternels. En tant que parents, nous nous associons à Dieu. Nous nous unissons même à lui pour réaliser son œuvre et sa gloire parmi ses enfants. Nous avons le devoir sacré de faire tout notre possible. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le 6 octobre de l'an 1536, un homme dans un état pitoyable est extrait d'un cachot du château de Vilvorde, près de Bruxelles, en Belgique. Pendant près d'un an et demi, il est resté en isolation dans une cellule sombre et humide. Une fois hors du mur du château, le prisonnier est attaché à un poteau. Il a le temps de prononcer une dernière prière à haute voix. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Puis on l'étrangle. Son corps est immédiatement brûlé au bûcher. Qui est cet homme et quel est son crime pour que les dirigeants politiques et ecclésiastiques l'aient condamné? Il s'appelle William Tyndale et son crime est d'avoir traduit et publié la Bible en anglais. Tyndale, né en Angleterre, à peu près à la même époque où Christophe Colomb voguait vers le Nouveau Monde, avait fait ses études à Oxford et à Cambridge et était devenu, par la suite, membre du clergé catholique. Il parlait couramment 8 langues, dont le grec, l'hébreu et le latin. Il avait étudié la Bible avec ferveur et l'ignorance généralisée des Écritures, tant chez les prêtres et chez les laïcs, le perturbait profondément. Dans des propos vifs échangés avec un ecclésiastique hostile à l'idée de mettre les Écritures entre les mains de l'homme de la rue, Tyndale avait fait le serment suivant. « Si Dieu me prête vie, je ferai en sorte que le garçon qui pousse la charrue connaisse mieux les Écritures que le pape lui-même. » Il avait demandé l'approbation des autorités ecclésiastiques pour faire une traduction de la Bible en anglais afin que tout le monde puisse lire et appliquer la parole de Dieu. Cela lui avait été refusé car, de l'avis général, l'accès direct aux Écritures par quelqu'un d'autre qu'un membre du clergé menaçait l'autorité de l'Église et revenait à jeter des perles devant les pourceaux. Qu'importe, Tyndale entreprend le difficile travail de traduction. En 1524, Il se rend sous un faux nom en Allemagne, où il vit la plupart du temps en cachette, sous la menace constante d'une arrestation. Avec l'aide d'amis dévoués, il est en mesure de publier des traductions anglaises du Nouveau Testament et plus tard de l'Ancien Testament. Les Bibles passent clandestinement en Angleterre, où elles sont très demandées et très précieuses pour les personnes qui peuvent s'en procurer. Elles sont largement diffusées, mais en secret. Les autorités brûlent tous les exemplaires qu'elles peuvent trouver. Néanmoins, moins de 3 ans après la mort de Tyndall, Dieu ouvrit effectivement les yeux du roi Henri VIII. Et après la publication de ce qu'on appela la Grande Bible, les écritures en anglais commencèrent à être accessibles au public. L'œuvre de Tyndall devient la base de presque toutes les traductions ultérieures de la Bible, et plus particulièrement celle de la version du roi Jacques. William Tyndale ne sera ni le premier ni le dernier de ceux qui, dans beaucoup de pays et de langues, auront sacrifié jusqu'à leur vie pour faire sortir la parole de Dieu de l'obscurité. Nous leur devons beaucoup à tous. Nous devons peut-être beaucoup plus encore aux prophètes qui ont fidèlement mis par écrit et conservé la parole au fil des siècles, souvent au prix d'un travail minutieux et de grands sacrifices. Moïse, Ésaïe, Abraham, Jean, Paul, Néphi, Mormon, Joseph Smith et beaucoup d'autres. Que savaient-ils de l'importance des Écritures que nous devrions aussi savoir? Que devrions-nous aussi comprendre que les Anglais du XVIe siècle, qui ont payé des sommes colossales et ont pris des risques personnels graves pour disposer d'une Bible, ont compris? Peu avant sa mort, le prophète Alma a confié les annales sacrées du peuple à son fils Élaman. Il a rappelé à Élaman que les Écritures ont accru la mémoire de ce peuple, oui, et en ont convaincu beaucoup de l'erreur de leur voie, et les ont fait parvenir à la connaissance de leur Dieu pour le salut de leur âme. Il a commandé à Élaman de préserver les annales, afin que par elles, Dieu puisse montrer son pouvoir aux générations futures. À travers les Écritures, Dieu montre réellement son pouvoir de sauver et exalter ses enfants. Par sa parole, comme l'a dit Alma, il accroît notre mémoire, met le faux et l'erreur en lumière, et nous conduit au repentir et à nous réjouir en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Les Écritures accroissent notre mémoire en nous aidant à toujours nous souvenir du Seigneur et de la relation que nous avons avec lui et le Père. Elle nous rappelle ce que nous avons appris dans notre vie prémortelle, et elle développe notre mémoire d'une autre manière en nous faisant connaître des époques, des personnes et des événements que nous n'avons pas connus personnellement. Nul d'entre nous n'était là pour voir la mer Rouge se diviser, ni pour la traverser avec Moïse entre deux murailles d'eau. Nous n'étions pas là pour entendre le sermon sur la montagne, pour voir Lazare ressuscité d'entre les morts, pour voir les souffrances du Sauveur à Gethsémané et sur la croix. Et nous n'avons pas entendu avec Marie les deux anges témoigner près du sépulcre vide que Jésus était ressuscité des morts. Vous et moi ne nous sommes pas avancés un par un avec la multitude au pays d'abondance à l'invitation du Sauveur ressuscité pour sentir la marque des clous et baigner ses pieds de nos larmes. Nous n'étions pas à genoux aux côtés de Joseph Smith dans le bosquet sacré et nous n'avons pas contemplé le Père et le Fils. Et pourtant, nous connaissons tous ces événements et bien plus encore, parce que nous avons les Écritures pour accroître notre mémoire, pour nous apprendre ce que nous ne savions pas. Et lorsque ces choses touchent notre esprit et notre cœur, notre foi en Dieu et en son Fils bien-aimé s'enracine en nous. Les Écritures peuvent également accroître notre mémoire en nous aidant à ne pas oublier ce que nous et les générations précédentes avons appris. Les personnes qui n'ont pas ou qui ignorent la parole de Dieu finissent par cesser de croire en lui et oublient le but de leur existence. Vous vous souviendrez à quel point il était important pour le peuple de Lehi d'emporter les plaques d'airain lorsqu'il a quitté Jérusalem. Ces Écritures étaient la clé de sa connaissance de Dieu et la rédemption future du Christ. L'autre groupe qui est sorti du pays de Jérusalem, peu après Lehi, n'avait pas d'écriture, et il est écrit que quand les descendants de Lehi l'ont trouvé, environ 300 ou 400 ans plus tard, sa langue s'était corrompue, et il niait l'existence de son Créateur. À l'époque de Tyndall, l'ignorance des Écritures était grande parce que les gens n'avaient pas accès à la Bible. surtout dans une langue qu'il comprenait. Aujourd'hui, la Bible ainsi que d'autres écritures sont à portée de main, et pourtant l'ignorance des écritures s'accroît parce que les gens n'ouvrent pas leurs livres. Par conséquent, ils ont oublié ce que leurs grands-parents savaient. Dieu utilise l'écriture pour corriger les opinions erronées, les fausses traditions et le péché et ses effets dévastateurs. C'est un Père tendre qui veut nous éviter des souffrances et des chagrins inutiles et en même temps nous aider à atteindre notre potentiel divin. Les Écritures, par exemple, discréditent une ancienne philosophie revenue à la mode de nos jours, celle de Corior, selon laquelle il n'y a aucun principe moral universel, que tout homme prospère selon son génie, et que tout homme conquiert selon sa force, et que tout ce qu'un homme fait n'est pas un crime, et que lorsqu'un homme meurt, c'en est fini. Fin de citation. Alma, qui avait eu affaire à Corior, n'a pas laissé son fils Corianton dans le doute à propos de l'existence d'une loi morale divine. Corianton s'était rendu coupable de péché sexuel et son père lui a parlé avec amour, mais aussi avec franchise. « Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur ?»« Oui, extrêmement abominable, par-dessus tous les péchés, si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. » Contrairement à ce que les gens pensaient il y a un siècle de cela, de nombreuses personnes aujourd'hui seraient en conflit avec Alma à propos de la gravité de l'immoralité. D'autres soutiendraient que tout est relatif ou que l'amour de Dieu est permissif. Ils diraient que s'il y avait un Dieu, il excuserait tous les péchés et les fautes du fait de son amour pour nous, que nous n'avons pas besoin de nous repentir ou qu'au pire, une simple confession suffirait. Ils se sont imaginés un Jésus qui veut que les gens travaillent pour une justice sociale, tout en n'exigeant rien dans leur vie personnelle ou leur comportement. Mais un Dieu d'amour ne nous laisse pas apprendre par triste expérience que la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Ses commandements constituent la voie de la réalité et une protection contre la souffrance que nous nous infligeons. Les Écritures sont la pierre de touche qui permettent de mesurer l'exactitude et la vérité, et elles disent clairement que le vrai bonheur ne s'obtient pas en refusant la justice de Dieu ou en essayant d'échapper aux conséquences du péché, mais par le repentir et le pardon, par la grâce rédemptrice du Fils de Dieu. Les Écritures nous enseignent des principes et des valeurs morales comme l'intégrité, la responsabilité, l'altruisme, la fidélité et la charité, essentielles pour conserver une société civile. Nous y trouvons des descriptions frappantes de bénédictions reçues par des personnes qui ont honoré de vrais principes, de même que des tragédies s'abattant sur les personnes et les civilisations qui s'en sont écartées. Lorsqu'on ignore ou qu'on abandonne les vérités des Écritures, la base essentielle et morale de la société se désagrège et s'ensuit le déclin. Le temps passant, il ne reste rien pour soutenir les institutions qui soutiennent la société. Enfin, le but principal de toute écriture est de remplir notre âme de foi en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ, foi qu'il existe, foi au plan du Père pour l'immortalité et la vie éternelle, foi en l'expiation et en la résurrection de Jésus-Christ qui est la raison de ce plan du bonheur, foi de faire de l'évangile de Jésus-Christ notre mode de vie et foi de parvenir à la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La parole de Dieu, comme l'a dit Alma, est comme une semence plantée dans notre cœur qui produit la foi lorsqu'elle commence à germer en nous. La foi ne viendra pas de l'étude purement intellectuelle des textes anciens. Elle ne viendra pas de fouilles archéologiques et de découvertes. Elle ne viendra pas d'expériences scientifiques. Elle ne viendra pas même de l'observation de miracles. Ces choses peuvent servir à confirmer la foi ou parfois à la mettre à l'épreuve, mais elles ne font pas naître la foi. La foi s'obtient par le témoignage du Saint-Esprit à notre âme, l'Esprit parlant à l'Esprit, tandis qu'on écoute ou lit la parole de Dieu. Et la foi mûrit lorsque l'on continue de se faire un festin de la parole. Dans les Écritures, les récits de la foi d'autres personnes servent à renforcer la nôtre. Nous nous souvenons de la foi d'un centenier qui a permis au Christ de guérir son serviteur sans même le voir, et de la guérison de la fille d'une cananéenne, parce que cette mère humble acceptait les miettes, pour ainsi dire, de la table du maître. Nous entendons le cri de souffrance de Job. Quand bien même il me tuerait, je placerais ma confiance en lui, qui témoigna en larmes. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et que dans ma chair, je verrai Dieu. Nous entendons et nous prenons courage en voyant la détermination d'un jeune prophète, haï et cruellement persécuté par tant d'adultes. J'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier, ni ne l'osais. Parce qu'elles expriment la doctrine du Christ, les Écritures sont accompagnées du Saint-Esprit dont le rôle est de rendre témoignage du Père et du Fils. C'est pourquoi être dans les Écritures constitue un moyen de recevoir le Saint-Esprit. Bien entendu, l'Écriture est d'abord donnée par le Saint-Esprit. Et ce même esprit peut témoigner de sa véracité à vous et à moi. Étudiez les Écritures attentivement, volontairement. Méditez et priez à propos des Écritures. Elles sont une révélation et elles vous apporteront des révélations supplémentaires. Pensez à l'immense bénédiction que nous avons d'avoir la Sainte Bible, ainsi que près de 900 pages supplémentaires d'Écritures. Le livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Puis pensez que, de plus, les paroles que les prophètes prononcent sous l'inspiration du Saint-Esprit dans des lieux comme celui-ci, paroles que le Seigneur appelle Écriture, nous parviennent presque sans cesse par la télévision, la radio, l'Internet, le satellite, les CD, les DVD et sur papier. J'imagine que jamais dans l'histoire, nul peuple n'a été béni d'une telle quantité de saintes écritures. De plus, chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut posséder et étudier son propre exemplaire de ces textes sacrés, la plupart dans sa propre langue. Comme cela aurait paru incroyable aux contemporains de William Tyndale et au sein des premières dispensations. Il est certain qu'avec cette bénédiction, le Seigneur nous enseigne que nous avons plus besoin de recourir constamment aux Écritures aujourd'hui qu'à toute autre époque précédente. Puissions-nous nous faire continuellement un festin des paroles du Christ qui nous diront tout ce que nous devons faire. J'ai étudié les Écritures et médité à leurs propos. Et, en cette période de Pâques, je vous rends témoignage du Père et du Fils comme ils sont révélés dans les saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Seigneur, merci pour le prophète ». À la fin du cantique, Ayogi et Bruce A. Carlson, des 70, nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons David Abednar du Collège des 12 apôtres.
This is the 180th annual.
Vous assistez à la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
My brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, je suis profondément reconnaissant de pouvoir parler à cette conférence. Je suis reconnaissant que nous ayons le président Monson. Et je témoigne qu'il est un prophète vivant du Seigneur. Je suis profondément impressionné par le merveilleux exemple du président Monson qui a passé sa vie à utiliser ses mains pour aider et servir autrui. Nous vivons à une époque où de nombreuses personnes sont victimes de catastrophes et ont besoin d'aide suite aux effets dévastateurs de tremblements de terre, de raz-de-marée, d'ouragans et d'autres catastrophes naturelles. L'Église va vers ces gens grâce à l'aide humanitaire. Les membres de l'Église font fidèlement des offrandes de jeunes généreuses chaque fois, chaque mois, et rendent service dans un esprit d'amour. Ils tendent littéralement des mains serviables à la manière du Seigneur. Ils suivent le commandement du Seigneur qui a dit « Et souvenez-vous en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés. Car celui qui ne fait pas ces choses n'est pas mon disciple. » Je vais me concentrer aujourd'hui sur les mains qui aident et sauvent spirituellement. L'œuvre et la gloire du Seigneur est véritablement de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Beaucoup de gens autour de nous ont besoin d'aide spirituelle en tendant une main salvatrice aux membres non pratiquants, aux familles partiellement membres et aux gens qui ne sont pas de notre religion. Nous les invitons tous à aller au Christ. Lorsque j'étais nous converti, j'étais spirituellement aidé par les mains salvatrices d'un membre fidèle de l'Église. J'ai grandi à Matsumoto, au Japon, près de l'endroit où se sont tenus les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Ma ville natale ressemble beaucoup à Salt Lake City. C'est une vallée entourée de belles montagnes. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré deux missionnaires américains, frère Carter et frère Hayashi. Nous n'avions que 2 ou 3 ans de différence. Mais les missionnaires avaient quelque chose de merveilleux que je n'avais jamais ressenti. Ils étaient diligents, joyeux et remplis d'amour et de lumière. J'étais profondément impressionné par leurs qualités et je voulais devenir comme eux. J'ai écouté leurs messages et j'ai décidé de me faire baptiser. Mes parents, qui étaient bouddhistes, se sont fortement opposés à mon baptême. Grâce à l'aide des missionnaires et à celle du Seigneur, j'ai obtenu la permission et miraculeusement, j'étais baptisé. L'année suivante, je suis entré à l'université de Yokohama, vivant loin de ma ville natale et des gens que je connaissais. Je me suis senti seul et je me suis éloigné de l'Église. Un jour, j'ai reçu une carte postale d'une sœur de l'église de chez moi. Elle écrivait qu'elle avait entendu dire que je n'assistais pas aux réunions de l'église. Elle citait une écriture et m'invitait à retourner à l'église. Les paroles de l'écriture m'ont profondément touché. Cela m'a aidé à me rendre compte que j'avais peut-être perdu quelque chose d'important. Et j'ai médité et lutté pendant de nombreux jours. Cela m'a aussi rappelé une promesse que les missionnaires m'avaient faite. Si tu lis le livre de Mormon et demandes en prière avec ferveur si la promesse qui se trouve dans Moroni est vraie, tu connaîtras la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que je ne priais pas de tout mon cœur. Et j'ai décidé de le faire. Un matin, je me suis réveillé tôt, je me suis agenouillé dans mon petit appartement et j'ai prié sincèrement. À ma grande surprise, la confirmation du Saint-Esprit s'est déversée sur moi, comme promis. Ma poitrine brûlait, mon corps tremblait et j'étais rempli de joie. Par le pouvoir du Saint-Esprit, j'ai appris que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ vivent et qui sont véritablement apparus à Joseph Smith. J'ai pris l'engagement de me repentir et de suivre fidèlement Jésus-Christ tout le reste de ma vie. Cette expérience spirituelle a complètement changé ma vie. J'ai décidé de faire une mission par gratitude pour le Seigneur et pour la sœur de l'Église qui m'avait sauvé. Après ma mission, j'étais scellé dans le temple à une jeune fille formidable. Et nous avons eu la bénédiction d'avoir 4 enfants. Ce n'est pas une coïncidence, mais c'est la jeune fille qui m'a sauvé en m'envoyant une carte postale lorsque j'étais seul dans l'appartement de Yokohama des années auparavant. Comme l'a dit le... Je sais que beaucoup de vous tentent dans le privé des mains aimantes et salvatrices chaque jour. Il y a une sœur fidèle de ce secours qui se soucie non seulement des sœurs auxquelles doit rendre visite, mais aussi des sœurs qui sont malades ou qui ont besoin d'aide. Elle rend souvent visite et au fil des années, elle a fortifié la foi de nombreuses personnes. Je pense à un évêque qui rendait souvent visite aux veuves et aux veuves de sa paroisse. Il a continué de le faire pendant des années après sa relève. Je connais un détenteur de la prêtrise qui passe du temps avec un jeune homme qui a perdu son père. Il fait des activités avec lui, il lui enseigne l'Évangile et lui donne des conseils comme le ferait son père. Une autre famille aime faire connaître l'Évangile. Les parents, les enfants témoignent de l'Évangile aux gens qui les entourent. Et beaucoup les aiment. Comme activité de la primaire, ma petite fille de 5 ans met un grain de maïs dans un grand bocal en verre chaque fois qu'elle fait une bonne action. Chaque jour, en recherchant les bonnes choses à faire, elle chante à tue-tête le chant de la primaire. Suis les prophètes, suis les prophètes, car ils sauront toujours te guider. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les bonnes choses que je vois les membres de l'Église faire. Ils suivent les conseils du prophète, non par devoir ou obligation, mais de leur plein gré, de manière anonyme et joyeuse. Nous avons parfois le sentiment d'être faibles et de manquer de force pour aider autrui. Mais le Seigneur nous rappelle, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je termine par une citation du président Monson. Mes frères et sœurs, nous sommes entourés de gens qui ont besoin de notre attention, de nos encouragements, de notre soutien, de notre réconfort, de notre gentillesse. Que ce soit des membres de notre famille, des amis, des connaissances ou des inconnus, nous sommes les mains du Seigneur ici sur terre, avec la mission de servir et d'aider ses enfants. Il compte sur chacun de nous. Puissions-nous suivre les conseils et l'exemple du prophète et chercher chaque jour les gens dans le besoin, afin de pouvoir être les mains du Seigneur en aidant et sauvant ses enfants. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
On raconte l'histoire de deux passionnés de plein air qui louent un petit avion pour se rendre par les airs jusqu'à un lac isolé pour leur partie de pêche annuelle. À la fin d'une journée très réussie, le pilote revient pour les récupérer. Seulement, il leur dit tout de suite que son petit avion ne pourra pas les transporter, eux, leur équipement et le poids additionnel des poissons qu'ils ont pris. Il faudra faire un deuxième voyage. Les sportifs n'ont pas la moindre envie de payer un deuxième aller-retour. Ils promettent donc au pilote que tout sera emballé pour prendre un minimum de place et lui offre une petite prime supplémentaire, et le pilote accepte, à contre-cœur, de tenter le vol. Tandis que le pilote arrache péniblement son appareil du sol, les pêcheurs ont un sourire entendu. Cependant, quelques secondes plus tard, le moteur de l'avion cale et l'avion s'écrase sur un vaste terrain plat et marécageux à l'extrémité du lac. L'avion a calé lorsqu'il est sorti d'un phénomène bien connu appelé effet de sol. L'effet de sol crée pour l'avion une force ascensionnelle supplémentaire lorsque l'air est comprimé entre les ailes de l'avion et la surface du sol, lorsqu'elles sont à proximité immédiate. Dans ce cas-ci, lorsque l'avion s'est élevé lourdement et est sorti de l'effet de sol, ils auraient dû voler par la seule force de son moteur et de sa portance, ce qui n'était tout simplement pas possible. Par chance, il n'y a pas de blessure grave. Et après avoir repris ses esprits, l'un des pêcheurs demande à l'autre « Que s'est-il passé ?» Le deuxième réplique « Nous nous sommes écrasés au décollage, à environ 100 mètres de l'endroit où nous nous sommes tombés l'an dernier. » Comme les deux sportifs, nous croyons parfois qu'il doit exister un moyen plus facile, un raccourci ou une modification des commandements du Seigneur qui conviendra à notre cas particulier. Raisonner de cette façon, c'est oublier que la stricte obéissance aux lois de Dieu apporte ses bénédictions et sa protection, alors que le non-respect de ces lois entraîne des conséquences prévisibles. Au moment de son appel à la présidence de l'Église, Harold Bailey a déclaré « La sécurité de l'Église repose sur l'obéissance des membres au commandement. Lorsqu'ils obéissent au commandement, les bénédictions viennent. » Lorsque nous choisissons de désobéir à un commandement, c'est généralement parce que, premièrement, nous sommes convaincus que ce commandement ne s'applique pas à nous. Deux, nous ne croyons pas que ce commandement soit important. Ou trois, nous sommes certains que ce commandement est trop difficile à respecter. Au cours des dernières années du règne du roi Salomon, un prophète vint lui dire « Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur ». Peu de temps après, le prophète Achija identifiait ce serviteur comme étant Jéroboam, homme vaillant à qui Salomon avait donné la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Les devoirs de Jéroboam l'obligeaient à se rendre des montagnes d'Éphraïm où il vivait jusqu'à la capitale, Jérusalem. Au cours de l'un de ses voyages, le prophète le rencontra en chemin et prophétisa « Je te donnerai 10 tribus ». Il donna aussi à Jéroboam l'instruction suivante « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, je serai avec toi et je te donnerai Israël ». Après avoir entendu la prophétie d'Achija, Salomon eut peur de Jéroboam et l'exila en Égypte. À la mort de Salomon, Jéroboam revint d'exil, vécut dans la partie nord d'Israël et commença à diriger les 10 tribus du nord. Toutefois, le plan de Jéroboam pour gouverner le royaume comportait un mélange de bien et de mal. Comme capitale de la nation, il choisit Sichem, ville qui avait une grande signification religieuse pour son peuple. Mais il introduisit malheureusement des rites sataniques dans son culte. Comme les deux pêcheurs, Jéroboam s'était convaincu que certains des commandements de Dieu ne s'appliquaient pas à lui. En résultat de ses actes, tous ses descendants furent massacrés, et à cause des pratiques mauvaises qu'il avait introduites dans leur ordonnance sacrée, les 10 tribus d'Israël furent finalement chassées de la terre de leur héritage. De même que le fait de sortir de l'effet de sol, avec plus de poids que les ailes d'un avion ne peuvent en supporter, produit des conséquences désastreuses, le fait de nous conformer partiellement ou de manière sélective aux lois de Dieu ne nous apporte pas les bénédictions complètes de l'obéissance. Deuxièmement, des décennies plus tard, Naaman, héros de guerre syrien, fort et vaillant, quitta sa terre natale pour aller en Juda et alla trouver le roi Joram pour être guéri de la lèpre. Naaman fut envoyé au prophète Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. » Malgré cette promesse de guérison faite par un prophète, Naaman fut offensé parce qu'Élisée ne l'avait pas accueilli en personne et se sentit encore plus insulté par la directive du prophète de se laver dans le Jourdain, ce petit fleuve boueux. Son orgueil exigeait quelque chose de plus remarquable et de grandiose, quelque chose qui corresponde à son rang et à sa situation dans la ville et la nation. Heureusement pour Naaman, ses serviteurs le convainquirent que quoi que le prophète lui demande de faire, s'il y obéissait, cela lui vaudrait les bénédictions du Seigneur. Au contraire de nos deux pécheurs, Naaman se soumit à ce commandement apparemment simple et se lava dans le Jourdain comme on l'y invitait. En résultat de son obéissance, il fut guéri de sa lèpre. L'obéissance au commandement du Seigneur, aussi insignifiant qu'il nous paraisse, nous apportera à coup sûr les bénédictions qu'il a promises. Troisièmement, suivant le commandement du Seigneur, le prophète Léhi conduisit sa famille dans le désert. Pendant les premières semaines du voyage, Léhi dit à ses fils aînés, Laman et Lémuel, d'être fermes, constants et immuables à respecter les commandements du Seigneur. Cependant, lorsque le prophète leur demanda de retourner à Jérusalem pour récupérer les plaques d'airain contenant les annales des Juifs, les deux aînés se rebellèrent en disant, « C'est quelque chose de dur ». En dépit des récriminations de ses frères aînés, la foi et l'obéissance de Néphi au commandement du Seigneur lui permirent d'obtenir les plaques d'airain. Une nation fut édifiée, une langue préservée et l'évangile de Jésus-Christ fut enseigné aux nombreuses générations qui suivirent. Nous pouvons raisonner parfois que le Seigneur comprendra notre désobéissance, parce que dans notre cas particulier, il est difficile, gênant ou même douloureux d'adhérer à ses lois. Cependant, si nous obéissons fidèlement, quelle que soit l'ampleur apparente de la tâche, nous recevrons le soutien, l'aide et la paix du Seigneur. Joseph Smith, le prophète, supplia le Seigneur en deux occasions, demandant si son éminent ami, Martin Rees, pouvait emporter les 116 premières pages écrites de la traduction du livre de Léhi de Harmony, Pennsylvanie, jusqu'à Palmyra. Chaque fois, le Seigneur conseilla à Joseph d'éviter de confier le manuscrit à Martin Rees. Martin souhaitait utiliser le texte traduit comme preuve pour empêcher ses relations de répandre des rumeurs sur lui et sur son amitié avec Joseph Smith. La troisième fois, le Seigneur répondit favorablement à la requête de Joseph. Martin perdit le manuscrit et en conséquence, les plaques furent retirées à Joseph pendant une longue période. Cette leçon douloureuse incita le prophète à dire « De ceci je fis ma règle, quand le Seigneur commande, obéis ». Cela peut et doit aussi être notre règle. Comme nos deux pécheurs l'ont découvert, mieux vaut conformer sa vie aux lois de Dieu, même lorsqu'il est difficile d'y obéir, que de devoir réparer les dégâts découlant de la désobéissance. Lorsque nous obéissons aux commandements du Seigneur, sa réponse est sûre. Il nous a promis, « Si tu gardes mes commandements et endures jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle. » De plus, il nous a prévenus, « Moi, le Seigneur, je suis miséricordieux et bienveillant envers ceux qui me craignent et me réjouis d'honorer ceux qui me servent en justice et en vérité jusqu'à la fin. » L'obéissance au commandement du Seigneur nous donne confiance dans le chemin que nous avons choisi, nous offre ses conseils et ses directives, tandis nous persévérons dans nos efforts et nous donne le potentiel de devenir semblable à notre Sauveur Jésus-Christ et de retourner en la présence de notre Père. Ma prière est que chaque jour, nous trouvons en train de nous efforcer d'être plus obéissants aux lois, aux ordonnances, au commandement de l'Évangile de Jésus-Christ, afin qu'il puisse pleinement bénir notre vie. Je témoigne que l'obéissance au commandement de Dieu apporte les bénédictions des cieux, que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ vivent, que le livre de Mormon est la parole de Dieu, et que Thomas Monson, notre président, est le prophète du Seigneur pour notre époque. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Récemment, j'étais au volant de ma voiture sous l'orage et des gouttes de pluie éclaboussaient mon pare-brise. Sur le bas-côté de la route, un panneau électronique affichait un avertissement opportun. Attention, nappe d'eau. La chaussée me paraissait tout à fait sans danger. Mais cette signalisation vitale m'a permis de me préparer à un danger potentiel que je n'avais pas prévu et que je ne pouvais pas encore voir. J'ai continué à rouler vers ma destination, mais j'ai ralenti, attentif à tout autre signe de danger. Il y a des signaux d'alerte anticipés dans de nombreux aspects de notre vie. Par exemple, la fièvre peut être le premier symptôme d'une maladie. On utilise divers indicateurs financiers et du marché du travail pour prévoir les futures tendances de l'économie locale ou nationale. Et selon l'endroit du monde où nous habitons, nous pouvons recevoir des signaux d'avalanche, d'ouragan, de raz de marée, de tornade, ou même de tempête de neige. Nous pouvons aussi bénéficier de signaux d'alerte anticipés, spirituels, qui nous protègent ou nous guident dans la vie. Rappelez-vous comment Noé fut averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, et comme il construisit une arche pour sauver sa famille. Léhi fut averti de quitter Jérusalem et d'emmener sa famille dans le désert, parce que les gens à qui il avait prêché le repentir cherchaient à le tuer. Le Sauveur lui-même fut épargné grâce à l'avertissement donné par un ange. Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Réfléchissez aux paroles du Seigneur dans la révélation appelée « Paroles de sagesse ». En conséquence des mauvaises intentions et des desseins qui existent et existeront dans les derniers jours, dans le cœur des conspirateurs, je vous ai averti et je vous préviens en vous donnant par révélation cette parole de sagesse. Frères et sœurs, les avertissements spirituels doivent nous pousser à veiller avec une vigilance accrue. Nous vivons, vous et moi, un jour d'avertissement. Et comme nous avons été et serons avertis, nous devons, comme l'apôtre Paul nous a exhortés à le faire, veiller avec une entière persévérance. Je prie pour que le Saint-Esprit me guide dans la description que je vais faire d'un système d'alerte anticipée spirituelle qui peut aider les parents en sillon à être en éveil et à faire preuve de discernement pour leurs enfants. Ce système d'alerte anticipée s'applique aux enfants de tout âge et comporte trois éléments de base. Premièrement, lire le livre de Mormon et en parler avec vos enfants. Deuxièmement, leur témoigner spontanément des vérités de l'Évangile. Et troisièmement, les exhorter à avoir une attitude active et non passive quand ils apprennent l'Évangile. Les parents qui le font fidèlement auront la bénédiction de reconnaître les premiers signes de progression spirituelle chez leurs enfants ou bien de difficultés qu'ils rencontreront et d'être mieux préparés à recevoir l'inspiration pour fortifier et aider ces enfants. Premier élément, lire le livre de Mormon et en parler. Le livre de Mormon contient la plénitude de l'Évangile du Sauveur et est le seul ouvrage dont le Seigneur ait témoigné personnellement qu'il est vrai. En fait, le livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion. Son pouvoir de conviction et de conversion vient à la fois de la place centrale qu'il donne au Seigneur Jésus-Christ et de la simplicité et de la clarté inspirée de ses enseignements. Néphi a déclaré « Mon homme met ses délices à être clair pour mon peuple, afin qu'il apprenne. » Le mot « clair » contenu dans ce verset veut dire que les instructions données le sont d'une telle manière qu'elles sont faciles à comprendre. Le livre de Mormon est le livre le plus correct sur Terre parce qu'il se concentre sur la vérité, à savoir Jésus-Christ, et rétablit les choses claires et précieuses qui ont été ôtées du véritable Évangile. La combinaison unique de ces deux facteurs, l'accent sur le Sauveur d'une part et la clarté des enseignements d'autre part, appelle avec force la confirmation et le témoignage de la troisième personne de la divinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En conséquence, le livre de Mormon parle à l'esprit et au cœur du lecteur comme aucun autre volume d'écriture ne peut le faire. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que le respect des préceptes du livre de Mormon nous aiderait à nous approcher davantage de Dieu que n'importe quel autre livre. En le lisant et en parlant régulièrement, nous recevons la force de résister à la tentation et de créer des sentiments d'amour dans notre famille. Et les discussions sur les principes et les points de doctrine énoncés dans le livre de Mormon donnent aux parents des occasions d'observer leurs enfants, de les écouter, d'apprendre d'eux et de les instruire. Les jeunes de tout âge, même les tout jeunes enfants, peuvent réagir et réagissent à l'esprit particulier du livre de Mormon. Peut-être les enfants ne comprennent-ils pas tous les mots et toutes les histoires, mais ils ressentent certainement l'esprit familier décrit par Ésaïe. Et les questions qu'un enfant pose, les observations qu'il fait et les discussions qui s'en suivent constituent autant de signaux cruciaux d'alerte anticipée spirituelle. Il est important que les parents comprennent que ces conversations peuvent les aider à percevoir ce que leurs enfants apprennent, pensent et ressentent à propos des vérités contenues dans ce volume sacré d'Écriture, ainsi que les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent. Deuxième élément, témoigner spontanément. Le témoignage est la connaissance personnelle fondée sur le témoignage du Saint-Esprit que certains faits d'importance réelle sont vrais. Le Saint-Esprit est le messager du Père et du Fils, et le pédagogue et le guide qui conduit à toute vérité. C'est pourquoi, par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. La connaissance et la conviction spirituelle que nous recevons du Saint-Esprit sont le résultat de la révélation. Pour rechercher, pour recevoir ces bénédictions, il faut avoir le cœur sincère, une intention réelle et la foi au Christ. Un témoignage spirituel nous rend aussi responsables. Les parents doivent être vigilants et spirituellement attentifs aux occasions spontanées de rendre témoignage à leurs enfants. Il n'est pas nécessaire que ces occasions soient programmées, planifiées ou préparées d'avance. En fait, moins ces témoignages sont téléguidés, plus ils auront de chances d'être édifiants et d'avoir un effet durable. Par exemple, une conversation familiale qui se produit tout naturellement au dîner peut être le cadre parfait pour permettre à l'un des parents de parler et de témoigner de bénédictions précises qu'il a reçues ce jour-là, au cours d'activités relativement banales. Il n'est pas toujours nécessaire de commencer un témoignage par « je te rends témoignage que ». Il peut être dit simplement comme suit. « Je sais que j'ai été inspiré dans mon travail aujourd'hui. » Ou bien, « La vérité que contient ce passage d'Écriture a toujours été une grande source d'inspiration pour moi. » Des occasions semblables de témoigner peuvent aussi se présenter quand on voyage ensemble en voiture ou en bus ou dans une foule d'autres situations. La réaction des enfants à ces témoignages impromptus et leur envie ou leur manque d'envie d'y donner suite constituent des signaux d'alerte anticipés spirituels très révélateurs. Ce que dit un enfant sur une leçon apprise lors d'une étude des Écritures en famille, ou l'expression franche d'une préoccupation vis-à-vis d'un principe ou d'une pratique de l'Évangile, peut en apprendre beaucoup aux parents et les aider à mieux comprendre la question ou le besoin précis de l'enfant. De telles discussions, surtout quand les parents sont aussi prêts à écouter attentivement qu'à parler, peuvent instaurer une ambiance de soutien et de sécurité au foyer et encourager une communication continue sur des sujets délicats. Troisième élément, inciter les enfants à agir. Dans la grande division de toute la création divine, il y a des choses qui se meuvent et des choses qui sont mues. Nous, enfants de notre Père Céleste, avons reçu le don du libre arbitre, la faculté et le pouvoir d'agir de manière indépendante. Dotés de libre arbitre, nous agissons et nous devons tout d'abord nous mouvoir et pas seulement être mus. En particulier lorsque nous cherchons à obtenir la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Pour apprendre l'Évangile, nous devons mettre en pratique la parole et ne pas nous borner à l'écouter. Notre cœur est ouvert à l'influence du Saint-Esprit lorsque nous faisons bon usage de notre libre arbitre et que nous agissons suivant des principes corrects. Et de cette façon, nous l'invitons à nous instruire et à témoigner. Les parents ont la responsabilité sacrée d'aider les enfants à agir et à chercher la connaissance par la foi. Et frères et sœurs, un enfant n'est jamais trop jeune pour participer à cette manière d'apprendre. Quand on donne un poisson à un homme, on le nourrit pour un repas. Quand on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour toute la vie. Nous, les parents et enseignants de l'Évangile, notre rôle n'est pas de distribuer des poissons, mais plutôt d'aider les gens à apprendre à pêcher et à devenir spirituellement autonomes. La meilleure façon d'atteindre cet objectif essentiel est d'inciter nos enfants à agir selon des principes corrects en les aidant à apprendre en faisant. Ce genre d'apprentissage demande un effort mental, spirituel et physique et pas une simple écoute passive. On demande aux enfants qui apprennent l'Évangile d'agir et de ne pas se contenter d'être mus en lisant et en commentant le livre de Mormon et en témoignant spontanément au foyer. Imaginez une soirée familiale, par exemple, où l'on attend des enfants qu'ils viennent prêts à poser des questions sur ce qu'ils lisent et apprennent dans le livre de Mormon ou sur un point qui a été souligné récemment dans une discussion sur l'Évangile ou sur un témoignage rendu spontanément au foyer. Imaginez aussi que les enfants posent à leurs parents des questions auxquelles ceux-ci ne sont pas bien préparés à répondre. Certains parents risquent de craindre cette méthode non structurée de faire la soirée familiale. Mais les meilleures soirées familiales ne sont pas forcément le résultat de dossiers, de plans, de leçons et d'aides visuelles préparées, achetées ou téléchargées. Quelle belle occasion pour les membres de la famille de sonder les Écritures ensemble, de chercher à apprendre par l'étude et par la foi et d'être guidés par le Saint-Esprit. Car le prédicateur n'était pas meilleur que l'auditeur et l'instructeur n'était pas meilleur que celui qui apprenait et ils travaillaient tous, chacun selon sa force. Est-ce que nous aidons, vous et moi, nos enfants à devenir des individus agissants qui recherchent la science par l'étude et par la foi, ou bien les avons-nous formés à attendre qu'on les instruise et qu'on agisse sur eux? Nos parents, donnons-nous à nos enfants l'équivalent spirituel du poisson à manger, ou les aidons-nous constamment à agir, à apprendre par eux-mêmes et à rester fermes et immuables? Aidons-nous nos enfants à œuvrer avec zèle pour demander, chercher et frapper? La compréhension spirituelle que vous et moi avons eu la bénédiction de recevoir et dont la véracité a été confirmée dans notre cœur ne peut tout simplement pas être transmise à nos enfants. Il y a un prix à payer pour obtenir et posséder personnellement cette connaissance. Le prix de la diligence et de l'apprentissage par l'étude et par la foi. Ce n'est que de cette manière que l'on peut ressentir avec le cœur ce que l'on sait intellectuellement. Ce n'est que de cette manière qu'un enfant peut dépasser le stade où il s'appuie sur la connaissance spirituelle et l'expérience des parents et des adultes pour s'approprier ces bénédictions. Ce n'est que de cette manière que nos enfants peuvent être préparés aux difficultés de la condition mortelle. Je témoigne que les parents qui régulièrement lisent le livre de Mormon et en parlent avec leurs enfants, qui rendent spontanément témoignage à leurs enfants et qui leur demandent, en apprenant l'Évangile, d'agir et pas seulement d'être mus, auront la bénédiction d'avoir des yeux qui peuvent voir loin et des oreilles qui entendent le son de la trompette. Le discernement spirituel et l'inspiration que vous recevrez de la combinaison de ces deux habitudes sacrées vous permettra d'être comme des sentinelles sur la tour pour votre famille, veillant avec une entière persévérance à ce que votre famille et votre postérité soient bénies. Je vous le promets et j'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frère. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de l'Institut de religion d'Orem pour la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi et toutes les personnes qui ont participé. Jeffrey R. Holland du Collège des Douze Apôtres sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Mon Dieu, plus près de toi ». Après le cantique, Craig C. Christensen des 70 fera la prière de clôture.
As Sister Holland and I,
Sœur Holland et moi venions de descendre de l'avion dans un aéroport lointain lorsque trois belles jeunes femmes qui avaient pris le même vol que nous sont accourues pour nous saluer. Elles ont dit qu'elles étaient membres de l'Église, ce qui ne nous a pas trop surpris puisqu'il est rare que des personnes qui ne sont pas notre religion accourent vers nous dans les aéroports. Lors d'une conversation que nous n'avions pas prévue, nous avons bientôt appris, au milieu de leurs larmes, que ces trois jeunes femmes venaient juste de divorcer, que leur mari leur avait été infidèle, et que la séparation et la transgression avaient commencé par une attirance pour la pornographie. Avec cette introduction brutale, mon message d'aujourd'hui, un message difficile à dire, à donner pour moi. Je me sens un peu comme Jacob autrefois qui disait « Cela me peine de devoir user de tant de hardiesse de langage devant vous, dont beaucoup ont les sentiments extrêmement tendres et chastes et délicats. Mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est peut-être parce que je suis père ou grand-père, mais les larmes dans les yeux de ces jeunes femmes m'en ont fait venir aux miens et dans ceux de Sœur Holland. Et les questions qu'elles m'ont posées m'ont amené à me demander pourquoi il y a tant de décadence morale autour de nous et pourquoi tant de personnes et tant de familles, dans l'Église même, en deviennent des victimes marquées par cette tragédie. Bien entendu, je connaissais au moins une partie de la réponse à ma question. La plupart du temps, nous sommes tous agressés par des messages immoraux de toutes formes qui nous envahissent de tous côtés. Les côtés sombres de l'industrie, du cinéma, de la télévision et de la musique s'enfoncent de plus en plus dans les propos grossiers et l'inconduite sexuelle. Tragiquement, le même ordinateur et le même Internet qui me permettent de faire mon histoire familiale et de préparer des noms pour l'œuvre du Temple, peuvent, sans filtre et sans contrôle, permettre à mes enfants, mes petits-enfants, d'accéder à un cloaque intégral de perception qui pourrait creuser pour toujours un cratère dans leur esprit. Souvenez-vous que ces jeunes épouses ont dit que l'infidélité de leur mari a commencé par une attirance pour la pornographie. Mais l'immoralité n'est pas simplement un problème d'homme. Et les maris ne sont pas les seuls coupables. La compromission accessible d'un clic de souris, y compris ce qui peut arriver lors d'une rencontre virtuelle sur un forum de discussion, ne fait pas exception de personne, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, mariés ou célibataires. Et pour s'assurer que cette tentation reste toujours plus accessible, l'adversaire est occupé à étendre son influence au téléphone portable, aux jeux vidéo et aux iPods. Si nous arrêtons de nous en prendre aux branches de ce problème et mettons plus directement la hache à la racine de l'arbre, il n'est pas surprenant d'y trouver la luxure tapis furtivement. La luxure est un mot très déplaisant et certainement un sujet très déplaisant à traiter. En ce qui me concerne, il y a une bonne raison pour laquelle, dans certaines conditions, elle est connue pour être le plus mortel des sept péchés capitaux. Pourquoi la luxure est-elle un péché mortel? Eh bien, en plus de l'effet complètement destructeur de l'esprit qu'elle a sur notre âme, je pense que c'est un péché parce qu'elle souille la relation la plus élevée, la plus sainte que Dieu nous donne ici-bas. L'amour qu'un homme et une femme ont l'un pour l'autre et le désir de ce couple d'introduire des enfants dans une famille destinée à être éternelle. Quelqu'un a dit que le véritable amour doit comprendre l'idée de permanence. L'amour véritable dure. Mais la luxure change aussi vite qu'elle peut tourner une page pornographique ou jeter un coup d'œil rapide à notre objet potentiel de satisfaction qui passe, homme ou femme. L'amour véritable nous fait vraiment tourner la tête. C'est ce que je ressens pour ce Roland. Nous crions sur les toits, même quelquefois à la conférence générale. Mais la luxure se caractérise par la honte. Elle agit en cachette. Elle est presque pathologiquement clandestine. Plus l'heure est tardive et sombre, mieux c'est. Avec une porte verrouillée à double tour, juste au cas où. L'amour nous pousse instinctivement à nous tourner vers Dieu et vers les autres. Par contre, la luxure est tout sauf divine et prône l'abandon aux passions. L'amour va de pair avec des mains tendues et un cœur ouvert. La luxure ne fait que creuser l'appétit. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles prostituer le vrai sens de l'amour, que ce soit en imagination ou en étant avec une autre personne, est si destructeur. Cela détruit ce qui ne le cède en importance qu'à notre foi en Dieu, c'est-à-dire notre foi dans les personnes que nous aimons. Cela ébranle les piliers de confiance sur lesquels l'amour actuel ou futur est construit. Il faut beaucoup de temps pour rebâtir cette confiance une fois qu'elle a été perdue. Pousser cette idée suffisamment loin, que ce soit aussi personnel qu'un membre de la famille, aussi public que des élus politiques, des hommes d'affaires, des vedettes des médias et des idoles du sport, et nous ne tarderons pas à pouvoir mettre cet édifice construit au départ pour abriter des sociétés moralement responsables un panneau disant « Cette propriété est vide ». Que nous soyons mariés ou célibataires, jeunes ou vieux, parlons un instant de la manière de nous prémunir contre la tentation, quelle que soit sa forme. Nous ne pouvons peut-être pas guérir tous les maux de la société, mais parlons de mesures personnelles que nous pouvons prendre. Avant toute chose, commencez par vous séparer des gens, des documents et des situations qui vous nuiront. Comme les personnes qui luttent contre l'alcoolisme le savent, l'attraction de la proximité peut être fatale. Il en est de même des problèmes moraux. Comme Joseph, en présence de la femme de Potiphar, courez. Courez le plus loin possible de la tentation. Et lorsque vous fuyez la tentation, je vous en prie, ne donnez surtout pas votre nouvelle adresse. Reconnaissez que les personnes liées par les chaînes d'habitude ou de dépendance destructrice ont souvent besoin d'aide extérieure, où leurs efforts ne suffisent pas. Et c'est peut-être votre cas. Recherchez cette aide et acceptez-la. Parlez à votre évêque, suivez ses conseils, demandez une bénédiction de la prêtrise, utilisez ce qu'offrent les services familiaux de l'Église ou consultez un autre thérapeute qualifié. Priez sans cesse, demandez que des anges de côté du voile vous aident. Outre les filtres sur les ordinateurs et un verrou sur les affections, souvenez-vous que la seule maîtrise véritable dans la vie est la maîtrise de soi. Ayez une plus grande maîtrise, même sur les situations marginales que vous êtes amené à rencontrer. Si une émission de télévision est indécente, éteignez le récepteur. Si un film est vulgaire, sortez. Si une relation inconvenante s'installe, mettez-y fin. Beaucoup de ces influences ne sont peut-être pas mauvaises au départ, mais elles peuvent émousser notre jugement, endormir notre spiritualité et mener à quelque chose qui pourrait s'avérer mauvais. Un vieux proverbe dit qu'un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Alors, faites attention où vous mettez les pieds. Comme des voleurs dans la nuit, des pensées inconvenantes peuvent chercher à s'introduire dans notre esprit. Mais nous ne devons pas leur ouvrir les portes en grand, leur servir le thé et les petits gâteaux, et leur dire où se trouve l'argenterie. De toute façon, vous n'êtes pas censé servir du thé. Jetez les vauriens dehors. Remplacez les pensées obscènes par des images d'espoir et des souvenirs joyeux. Pensez aux personnes que vous aimez et qui seraient bouleversées. Si vous les abandonniez, plus d'un homme a été sauvé du péché ou de la stupidité en pensant à sa mère, à sa femme ou à son enfant qui l'attend à la maison. Quelles que soient les pensées, assurez-vous de ne les accueillir que si elles sont invitées. Comme un poète l'a dit autrefois, la raison est ma volonté. Cultivez l'Esprit du Seigneur et soyez là où il se trouve. Assurez-vous que cela comprend également votre maison, votre appartement, et qu'il dicte le genre d'art graphique, de musique et de littérature que vous possédez. Si vous êtes doté, rendez-vous au temple si souvent que votre situation le permet. Souvenez-vous que le temple vous arme du pouvoir de Dieu, vous entoure de la gloire de Dieu, et que ce dernier commande à ses anges de vous garder. Et vous, quand vous quitterez le temple, souvenez-vous des symboles que vous emportez pour ne jamais les mettre de côté ou les oublier. La plupart des gens qui ont des problèmes finissent par s'écrier « À quoi est-ce que je pensais ?» Eh bien, peu importe à quoi ils pensaient, ils ne pensaient pas au Christ. Pourtant, nous, membres de son Église, nous faisons serment tous les dimanches de notre vie de prendre sur nous son nom et promettons de toujours nous souvenir de lui. Alors, faisons un peu plus d'efforts pour nous souvenir de lui. En particulier, lui qui a porté nos souffrances et qui chargé nos douleurs, qui était brisé pour nos iniquités et qui nous a guéris par ses meurtrissures. Il est certain qu'il guidera nos actions de manière spectaculaire. Si nous nous souvenons que chaque fois que nous transgressons, nous ne faisons pas seulement du mal aux personnes que nous aimons, mais également à lui qui nous aime tant. Mais si nous péchons, aussi grave que puisse être le péché, nous pouvons être délivrés par ce même être majestueux qui porte le seul nom qui ait été donné sous le ciel par lequel un homme ou une femme, quel qu'il soit, peuvent être sauvés. Lorsque face à nos transgressions, notre âme est déchirée d'une vive douleur, puissions-nous nous écrier et prononcer, comme l'a fait Alma lors de son repentir, la phrase qui a changé sa vie. Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi. Mes frères et sœurs, je vous aime. Le président Monson et les frères vous aiment. Chose bien plus importante encore, votre Père Céleste vous aime. J'ai essayé dans mon message de vous parler de l'amour vrai, du respect que l'on doit avoir pour lui et sa vraie description dans toute la société que l'humanité a connue, de sa sainteté entre mari et femme, et des familles qui l'engendrent, que cet amour engendre par la suite de sa manifestation rédemptrice, la charité personnifiée, que nous recevons par la grâce du Christ lui-même. J'ai également dû parler du diable. L'être diabolique, le père des mensonges et de la luxure, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour fausser, profaner ou souiller le véritable amour où qu'il le rencontre. Et j'ai parlé de son désir de nous détruire par la même occasion, s'il le peut. À notre époque, lorsque nous sommes confrontés à de telles tentations, nous devons déclarer, comme le jeune Néphi l'a fait à son époque, « Je n'accorderai plus de place à l'ennemi de mon âme. » Nous pouvons rejeter le malin. Si nous le voulons de tout notre cœur et de toute notre âme, alors l'ennemi pourra être et sera appréhendé par le pouvoir rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. En outre, je vous promets que la lumière de son évangile éternel pourra briller et brillera de nouveau avec éclat là où nous avons craint que la vie ne soit devenue désespérément et inexorablement sombre. Puissions-nous connaître la joie qu'engendre la fidélité à ce qui est le plus élevé et le meilleur en nous, en gardant notre amour et notre mariage, notre société et notre âme, aussi pure que Dieu veut qu'il soit. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. eternal Father in heaven.
Notre Père éternel qui est aux cieux, nous sommes reconnaissants, Père, pour les messages et les sentiments que nous avons reçus ce jour, pour les familles justes de la terre, pour les parents, pour les enfants, pour les désirs que nous avons reçus de nous enseigner les uns les autres, par les Écritures, par les témoignages. Nous sommes reconnaissants, Père, pour un prophète vivant, pour les messages et les missions que nous avons reçues ce jour. Nous te prions que tu puisses nous bénir alors que nous réfléchissons sur ces choses, que notre fidélité s'accroisse et que notre esprit se fortifie et mette en action ces choses que nous avons ressenties et apprises. Nous sommes reconnaissants, Père, spécialement de cette saison, de ce cadeau de sacrifice expiatoire, de la résurrection de ton Fils, du rétablissement de ton Évangile dans ces derniers jours, et des bénédictions et de la prétation et de la protection dont de la prêtrise sur la terre. Bénis-nous, Père, que nous soyons plus reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes et que nous puissions agir en conséquence et selon ta volonté. Nous prions pour ces choses au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen.
Vous
venez d'assister à une session de la 180e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur mixte de l'Institut de religion d'Orem. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.